Dans le bassin de la Loire, la grève des mineurs est toujours totale.
Un grand soleil noir tombe sur la vallée.
Même situation dans l'industrie métallurgique qui emploie quelques 50 000 personnes.
La Société d'Histoire de Firminy et Radio Ondaine vous présentent l'histoire et la petite histoire de Firminy.
Oui, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes de retour. Michel Dufy, Société d'Histoire.
Jean Vigo.
Et aujourd'hui, un sujet. Oh, il y a beaucoup à raconter. Et il s'agit d'une personne, Aline Ménard d'Orient. Alors, Jean, explique-nous un petit peu là, comment on en arrive à parler de cette personne et pourquoi on peut en parler.
Alors, d'abord, on pourra dire que c'est un... si l'on avait un titre à donner, nous dirions que c'est une femme de caractère. Alors, qui était cette Aline Ménard d'Orient? Bon, d'Orient, tous les Apelous connaissent, ont entendu parler de d'Orient. En généalogie, nous dirons que Jacob Holzer a eu, entre autres, une fille qui s'appelait qui se prénommait Caroline. Cette Caroline s'est mariée avec Pierre-Frédéric d'Orient et ils ont eu, entre autres, une fille qui s'appelait Aline. Ils ont eu également deux fils, Charles et Daniel, je crois, le deuxième, et une autre fille, Berthe, qui est décédée assez jeune. Nous revenons à Caroline Holzer, qui épouse donc Pierre-Frédéric d'Orient, et leur enfant aîné de la famille, c'est justement Aline d'Orient. Aline d'Orient, je crois que jusque-là, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est à partir du moment où elle va se marier avec Paul Ménard que l'histoire va commencer. Alors, Michel, qui était ce Paul Ménard, là, dont je viens de parler?
Alors, Paul Ménard descend, il faut le dire, d'une vieille famille, donc de l'Hérault, ce sont de riches vignerons du Languedoc, qui ont en commun avec les d'Orient un lien, ils sont protestants. Et le deuxième, ils sont aussi républicains. Il a fait des études de droit à Paris. Il rallie l'opposition républicaine, il est hostile au Second Empire et il devient journaliste à la Liberté de l'Hérault. Son mariage va se faire donc avec la personne dont tu parlais tout à l'heure, Aline d'Orient. Ils vont se marier en 1869 et ça va achever un rapprochement qui existait déjà puisque Ménard connaissait la famille d'Orient. Et
je crois d'ailleurs que Paul Ménard va ajouter à son nom celui de sa femme.
Et oui, Ménard tout d'Orient.
Ménard d'Orient, officiellement, il s'appellera Paul Ménard d'Orient.
Voilà. Donc, ils vont se marier et ils se marient donc dans la région. Ils se marient en 1869.
1869. Et ils auront... une fille.
Ils ont une fille, mais...
une fille et une seule.
On en reparlera. Oui. On reparlera de la mère et de la fille.
Voilà. Bon, mais c'était Pauline, et puis oui. On verra tout à l'heure Pauline et Aline.
Donc, c'est Ménard d'Orient, voilà, donc d'où vient le nom, et d'où vient la personne.
Oui. Donc, maintenant, il faudrait donc parler de cette Pauline. Pauline, elle est très gâtée par ses parents. Elle est même, je dirais, un peu étouffée par sa mère, Aline, qui est une femme de caractère, une femme assez autoritaire. Et il y aura souvent des heurts entre la mère et la fille. Et en particulier, à partir des 20 ans de Pauline, parce que... mais avant de parler, si tu veux, Michel, des problèmes qui vont naître entre la mère et la fille, il faudrait... peut-être que tu avances un petit peu et connaître et savoir qui va fréquenter le fameux salon de la rue de la Faisanderie à Paris. Hein. Et dis-nous un petit peu.
Donc, il y a quand même à expliquer un rapprochement entre deux familles.
Oui.
Je pense la famille Holzer et la famille Hugo.
Ah, alors, il faut savoir que pourquoi ce rapprochement ? C'est parce que dans la même rue, pas très loin, il y avait le domicile de Victor Hugo.
Oui.
Voilà.
Donc ce les sont deux des voisins.
Familles, ce sont des voisins. Les familles se fréquentent et Aline Ménard-Dorian ouvre rue de la Faisanderie un salon. C'était très à la mode au XIXe siècle. C'était des salons, soit en général, où l'on recevait les écrivains, les peintres, quelquefois, et là surtout, les hommes politiques.
Et il y en aura un certain nombre de gens qui vont fréquenter ce salon.
Et dont Victor Hugo.
Dont Victor Hugo.
Et dont la famille de Victor Hugo. On peut citer, par exemple, ne serait-ce que le petit-fils de Victor Hugo, Georges Hugo.
Georges Hugo. Eh oui, Georges. Georges Hugo qui, donc, va fréquenter ce salon, mais qui va aussi faire la connaissance de quelqu'un de la famille Dorian.
Oui. Alors, peut-être que là, j'ai trouvé un texte qui explique bien ces relations qui existaient entre les Hugo et les Dorian. Il s'agit d'un texte qui a été écrit par Léon Daudet. Léon Daudet
qui fréquentait lui aussi le salon.
Eh oui, et c'était Léon Daudet, n'est ni plus ni moins que le fils de l'auteur des Lettres de Montmoulin. Hein. Et voilà par exemple ce qu'il écrit. Il y avait ce soir-là chez les Ménard d'Orient, rue de la
Faisanderie,
tous les noms de la littérature, de l'art, de la politique républicaine. À l'arrière de l'Auguste Vieillard, il s'agit de Victor Hugo, l'Auguste Vieillard, nous sommes peu de temps avant son décès, aux yeux bleus profonds, on fit la haie respectueusement. Des boîtes dissimulées dans le plafond s'ouvrirent, laissant pleuvoir des pétales de roses. D'un pas ferme, il s'avança vers la maîtresse de maison et lui baisa la main. Un petit orchestre joua l'hymne à Victor Hugo de Saint-Saëns. Victor Hugo s'arrêta auprès des uns et des autres. Il aperçut alors ceux qui étaient toute sa vie, ses petits-enfants, Georges et Jeanne. C'est dans ce salon que se noueront les fiançailles de Léon Daudet avec Jeanne Hugo et de Georges Hugo avec Pauline Ménard d'Orian. Voilà comment les Ménard d'Orient, les Dorian et donc les Holzer sont également les descendants, les ancêtres des descendants de Victor Hugo.
Et Georges va être doublement, on va dire, dans sa vie lié à la famille, puisque il va quitter donc à un certain moment Pauline pour se fréquenter et retrouver Dora.
Oui, alors, soyons plus clairs. Georges Hugo va donc faire la connaissance de Pauline Ménard-Dorian. Ils vont se fréquenter, ils vont se fiancer, ils vont se marier civilement. Civilement, hein, c'est bien précisé. Et ils se marient, nous sommes en 1894.
14.
Et d'ailleurs, le couple... Alors, qui est ce Georges Hugo ? Bon, je vous ai dit, c'est le petit-fils de Victor. Mais c'est aussi un homme qui... C'est un bambocheur. C'est quelqu'un qui a bien vécu, dépense beaucoup d'argent, l'argent qu'a gagné son grand-père.
C'est un artiste aussi.
Un artiste, oui, mais enfin, c'est surtout quelqu'un qui dépense tellement d'argent que malgré l'importance de la dot qu'il a amenée à son mariage, bientôt il tape dans la dot de sa femme. Et c'est à ce moment-là que Aline Ménard-Dorian, la mère, essaye de mettre un holà et demande la séparation de biens du ménage.
Du ménage, oui.
Et ça se fera en 1895. Et l'année suivante, le ménage divorcera. Mais il y aura eu la naissance de deux enfants, Jean et Marguerite Hugo. Mmh. Voilà. Ces deux enfants, eh bien... Comme la mère, Pauline, n'est pas très attentive, qu'elle est occupée à des mondanités.
Et oui.
C'est Aline.
Et oui, la grand-mère.
La grand-mère qui prend les petits-enfants.
Qui va les prendre en charge.
Qui les prend en charge, qui se charge de leur éducation, de suivre leurs études. Bon. Et une fois donc le divorce prononcé, voilà-t-il que Pauline Ménard-Dorian, car elle a repris son nom de jeune fille, elle ne s'appelle plus Pauline Hugo, puisqu'elle vient de divorcer avec Georges, prend l'envie de vouloir s'occuper à nouveau de ses enfants. De ses enfants qu'elle a négligés. Ça ne plaît pas tellement à sa mère, Aline.
À la femme de caractère.
À la femme de caractère. Et il y a des frictions. Ces frictions s'aggravent lorsque les parents se rendent compte que leur fille, Pauline, fréquente un autre homme qui s'appelle Paul Hartmann, qui est un décorateur, un dessinateur, un homme qu'elle épousera plus tard, mais pour l'instant qu'elle ne peut pas épouser, car il est déjà marié de son côté. Vous voyez, c'est une histoire très embrouillée. Toujours est-il, c'est que les parents, Aline et son mari Paul, refusent que les petits-enfants soient témoins de gestes, soient en présence de ce Paul, de ce fiancé de leur fille. Et ils vont porter plainte auprès du tribunal pour tenter d'obtenir la garde de leurs petits-enfants. Essayons d'imaginer la réaction de la mère, Pauline, qui là se révolte complètement. Il y a un procès. Ce procès se termine, bien sûr, à l'avantage de Pauline, qui garde la garde de ses enfants. Les grands-parents reviennent de nouveau à la charge parce que dans le procès, il n'a pas été question de leurs droits de grands-parents. Donc, ils auront finalement un droit de visite. On leur amènera leurs petits-enfants 2 jours par semaine, le mercredi ou le jeudi et le dimanche, de 13h à 15h. Voilà. Eh bien, cette sombre histoire de famille va ternir et va briser les liens qui existaient entre la mère Aline et sa fille Pauline, et ça durera malheureusement jusqu'à la mort d'Aline en 1929. Voilà pour cette vie familiale qui va être assez...
Mais qu'il ne faut pas négliger, parce qu'elle elle a une importance. Oui. Ce n'est pas rien lorsqu'une mère rompt avec sa fille.
Ah oui, là, voilà. Il faut se mettre en route, c'est qu'en 1906, Paul Ménard-Dorian décède brutalement. Donc elle se retrouve veuve, privée, un peu seule. Elle a son salon dans lequel elle reçoit les gens dont on a parlé. On va y revenir.
On va y revenir.
On va y revenir, voilà. À côté, bien sûr, de sa vie de famille, eh bien, il va y avoir justement la vie en société. Elle va recevoir, nous avons dit, les hommes de lettres, les musiciens, les peintres.
Elle est actrice dans ce domaine. Elle défend vraiment le milieu artistique.
Oui. Alors, bon, elle reçoit donc Victor Hugo, bien évidemment, mais elle reçoit aussi des musiciens comme Eric Satie. Elle va recevoir des peintres comme Carrière. Elle va recevoir un romancier, c'est Zola. Zola, d'ailleurs, qui viendra
dans la région,
puisqu'il sera invité par Paul Ménard-Dorian au château. Le château d'Orient, donc, et pendant plusieurs jours, Zola
va s'imprégner,
puisque
du milieu,
on pense que le roman
ouvrier,
oui, le roman, c'est Le Travail,
oui, Le Travail,
qui sera inspiré de cette visite qu'il fit dans les ateliers de Ménard-Dorian, puisqu'il était à l'époque Ménard-Dorian le président directeur général des usines Holzer. Mmh. Voilà.
Oui, il s'intéresse hautement à la métallurgie, voilà. les hauts fourneaux, les laminoirs, etc. Voilà. Mais pas uniquement, aussi aux conditions et aux salaires des ouvriers.
Oui.
Conditions
oui.
de travail.
Alors, il faut quand même savoir aussi, c'est que ce salon d'Aline Ménard-Dorian va servir de modèle à Proust, qui était également invité, va servir à Proust de modèle pour dans le salon de Madame Verdurin, hein, oui. Qui est dans le roman de Proust.
De Proust, mais c'est... on en avait parlé justement, et c'était d'ailleurs dans le titre de l'article,
oui.
Dans un bulletin de la Société d'Histoire en 2010,
oui, oui.
N'est-ce pas, oui. Et on disait bien le salon... de Madame Aline Ménard-Dorient, ouais. Ou le salon de Madame Verdurin.
De Madame Verdurin.
Et voilà. Oui, et un portrait avait été fait d'elle, d'ailleurs, par un peintre célèbre.
C'était Carrière.
Ouais. C'était Carrière, oui.
Voilà. D'accord.
Alors, cette femme est aussi une femme politique.
Oui, oui, elle était, c'était une femme politique, je dirais pas sectaire, mais qui avait des opinions, des idées très tranchées. Alors d'abord, très à gauche, hein. Elle recevait d'ailleurs, elle ne recevait pas des gens qui n'étaient pas de son parti. Hein. Ce qui marquera surtout son opinion et ses réceptions, c'est l'affaire Dreyfus. Dreyfus, tout le monde le sait que...
Elle a été défenseur de Dreyfus très tôt.
Très tôt. Donc Dreyfus, c'était ce capitaine qui fut accusé, à tort, d'avoir trahi la République française, la France, et qui fut envoyé au bagne, à Cayenne, à la suite d'un procès. Un procès qui a commencé à la fin du XIXe siècle et qui s'est terminé seulement... En 1906, après bien des rebondissements, il y eut donc les pros, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et bien sûr, Aline Ménard-Dorient faisait partie des Dreyfusards et elle ne recevait chez elle que ceci. Hein. Voilà.
Alors après donc avoir évoqué le fait... qu'elle était Dreyfusarde, on va dire, eh bien, elle avait aussi un rejet pour Clémenceau.
Ah, au début, Clémenceau était un ami.
Oui, mais c'est curieusement le contraire qui s'est produit après.
Ben oui, elle était tellement entière, et c'en était presque ridicule, qu'elle interdit. Elle avait une femme de ménage, une femme de chambre, qui s'appelait Clémence. Elle la débaptisa. Parce qu'elle ne voulait pas que, quand elle l'appelle, ça lui fasse penser...
À Clémenceau.
À Clémenceau. Oh, à Clémenceau, voilà. Elle était d'ailleurs, puisqu'on en est à ce côté un peu caricatural de la personne, elle était en plus anticléricale...
Notoire.
Notoire. Hein, à tel point que...
Refusait de rentrer dans une église.
Oui. Quand il y avait un enterrement, eh bien, elle faisait ostensiblement les 100 pas devant la porte, attendant que le convoi ressorte.
Manger de la viande le vendredi.
Ah, mais ça, elle se faisait un
malin. Vendredi saint.
Elle se faisait un malin plaisir à offrir, à inviter des amis qu'elle savait un petit peu coincés sur ce côté-là, puisque vous savez que dans la religion chrétienne, dans la religion catholique, le vendredi était un jour où l'on devait faire maigre.
Oui, on mangeait
de poisson
par exemple.
Eh bien, elle se faisait un malin plaisir à donner et à présenter sur la table une belle pièce de bœuf. Voilà.
Donc socialiste.
Oui, socialiste.
Ami des anciens communards.
Oui, bien sûr. Et socialiste, mais quand même, toujours, je dirais qu'elle faisait remarquer à ses socialistes, elle les trouvait un peu trop crottés, comme elle disait.
Oui,
car,
elle n'aimait pas ça.
Elle craignait, elle aimait bien que les gens viennent soigner.
Bien mis.
Bien mis, voilà. Hein, c'était un de ses défauts, mais un de ses traits de caractère. Donc finalement, si on réfléchit bien, c'est une femme qui a du caractère, mais c'est une femme qui ne devait pas être toujours très facile à vivre.
Ça, c'est sûr.
Elle était, finalement, je ne sais pas, mais il me semble assez désagréable, et elle avait surtout beaucoup de courtisans, finalement.
Donc, effectivement, mais là aussi, il y a un autre trait de caractère qu'il va falloir évoquer, c'est son féminisme.
Oui, elle, bien sûr, à l'époque, les femmes n'ont pas le droit de vote, les femmes n'ont aucun droit, ne sont pas considérées comme majeures, mais il n'en reste pas moins qu'elles elles s'intéressent à la politique, elles soutiennent d'ailleurs très souvent les hommes politiques qui fréquentaient son salon discutaient des lois dont ils allaient parler les jours suivants à la Chambre.
C'était un test.
Et même, elle n'hésitait pas à y ajouter son grain de sel.
Tout à fait. Voilà. Donc, des personnages comme Albert Thomas, quand même, ministre, qui est venu dans les usines la visiter à l'époque.
Albert Thomas, entre parenthèses, qui a été, au début de sa carrière, le précepteur de son petit-fils Jean Hugo.
Oui, donc elle ne le craignait pas trop.
Elle ne le craignait pas trop et elle donnait son avis. Et cet avis était utilisé, respecté. Et on retrouve des idées d'Aline Ménard-Dorian dans les lois qui sont présentées par ces hommes politiques, par les socialistes, bien évidemment.
Alors si on revient au féminisme, elle va même adhérer à la Ligue féminine de l'enseignement.
Oui, elle s'occupe de l'enseignement. D'ailleurs, elle fondera un collège, le Collège d'Orient à Paris, un collège technique, qu'elle fera fonctionner avec ses propres deniers, et un collège qui existe toujours, d'ailleurs, qui doit être devenu un lycée, d'ailleurs.
Oui.
Actuellement.
Et elle va même aussi travailler avec Jaurès et Anatole France, puisqu'elle va, à ce niveau-là, créer la Société des Amis du Peuple Russe.
Oui.
Contre le tsarisme, précisons
oui,
bien.
Oui, c'est contre le tsarisme. Hein. C'est pas les Russes du communisme. Hein. Nous sommes avant la naissance du communisme.
Oui.
Hein. Voilà. Elle va également s'intéresser à la Ligue des droits de l'homme. En 1918, là, nous sommes en 1918, là, elle participera à sa création et elle deviendra vice-présidente en 1922 de cette Ligue des droits de l'homme. Voilà. Secrétaire général également de la Fédération internationale des droits de l'homme. Hein, et elle décédera en 1929. Voilà. Quant à sa fille, Pauline, elle se remariera. Il faut savoir une chose, c'est que Jean Hugo, le fils de Pauline, qui meurt d'ailleurs en 1984, comme sa sœur Marguerite, connaissait bien Fraisse, car la grand-mère, Aline, les amenait souvent au château de Fraisse.
Jean Hugo, donc le peintre.
Le peintre, Jean Hugo, oui. Moi, je me souviens très bien avoir vu, bien sûr, c'était dans les années 70, 75, à la télé, Jean Hugo venir parler de théâtre, car il faisait pas mal de décors de théâtre. Voilà.
Et oui, et nous avons, on pourrait aussi préciser, au château des Bruneaux, une photographie de Victor Hugo, Jean.
Oui, alors, cette on n'en a pas parlé. On a eu quelques contacts avec la famille Hugo, pour la bonne et simple raison, c'est qu'en 2002, nous avons fait une exposition sur le bicentenaire de la naissance du poète. Et nous avons fait venir, nous avions invité, elles ont répondu d'ailleurs favorablement à cette invitation, la famille Hugo qui habite toujours d'ailleurs, à Lunel.
Oui, c'est bien un lieu où ils ont séjourné, ces familles-là.
C'est le pays de Ménard.
Ménard.
Et elles sont venues d'ailleurs, c'était tous des arrières petites filles de Victor Hugo. C'était des petites filles de Jean Hugo. Hein, c'était des on a eu également la visite. Ça, c'était du côté d'Orient. On a eu la visite de Madame Amel
La
fille de René Holzer. Et c'est cette... qui s'appelait Jenny, qui nous a obtenu...
Donc Jacqueline Holzer, là.
Alors, Jacqueline Holzer, c'est encore une... C'est une sœur de Jenny.
Oui.
Elle est d'ailleurs membre de la Société d'Histoire de Firminy.
Oui, oui. Et encore adhérente, on peut vous le dire, à jour de ses cotisations cette année.
Oui, oui, oui. Et qui, un jour, nous a proposé d'aller chercher à Grenoble, ce que nous avons fait d'ailleurs, ce portrait de Victor Hugo, qui qu'elle trouvait qui était totalement inutile dans une maison qu'elle avait
Dans
le Midi. Elle nous avait dit, je la monte chez des amis à Grenoble, si vous pouvez la récupérer, ça serait bien. Nous sommes allés chercher ce grand portrait de Victor Hugo, et ce grand portrait présente un intérêt dans la mesure où il a été dédicacé par Victor Hugo lui-même à la veuve courageuse d'un grand homme ou d'un vaillant homme.
Oui.
C'était une dédicace qu'il avait faite à la mère d'Aline, c'est-à-dire Caroline Holzer, qui vivait avec Aline et qu'il avait rencontrée à l'hôtel de la rue de la Faisanderie.
Tout à fait.
Et il lui avait offert ce portrait dédicacé que nous avons donc conservé.
Et que nous venons de mettre en lumière, puisque nous avons spécialement mis un éclairage pour ce tableau.
Pour ce tableau.
Par l'intermédiaire de notre électricien de service.
Voilà,
merci, Marc. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Elle a quand même été aussi, on peut préciser, secrétaire générale de la Fédération internationale des droits de l'homme.
Des droits de l'homme, oui. Hein?
Donc c'est vrai qu'elle n'a pas travaillé qu'au niveau national, mais aussi au niveau international. Je pense qu'elle avait quand même noué un certain nombre de relations à travers les pays, et voilà.
Je voudrais, c'est un peu désordonné et décousu.
Non,
mais tout
c'est
à
une
l'heure,
conversation que nous avons.
Tout à l'heure, je parlais du salon de Madame d'Aline Ménard-Dorion,
oui,
qui avait servi de modèle à Proust,
oui,
dans le salon pour le personnage de Madame Verdurin, et je n'avais pas pu retrouver le titre du roman. Ben, c'est À la recherche du temps perdu.
À la recherche, ben oui, mais moi, j'étais à la recherche.
Oui, ben voilà, je l'ai trouvé. Voilà, bien.
Ben, chers auditeurs, merci, à très bientôt. Nous allons, je pense, enchaîner un peu plus régulièrement que l'année dernière les émissions. Voilà.
Dans le bassin de la Loire, la grève des mineurs est toujours totale.
Un grand soleil noir tourne sur la terre.
Même situation dans l'industrie métallurgique qui emploie quelques 50 000 personnes.
La société d'histoire de Firminy.